Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme chaque soir, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h, sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, qu'est-ce qu'une recherche autonome ? Depuis maintenant 2 mois et un discours prononcé par Emmanuel Macron à l'occasion des 80 ans du CNRS sur les bons et les mauvais chercheurs, le milieu de la recherche interpelle les autorités par tribune interposée. Il faut dire que le gouvernement prépare une loi de programmation de la recherche fondée sur un ensemble de 3 rapports qui lui ont été remis à l'automne. De nombreuses manifestations ont eu lieu depuis lors, accusant ce projet de loi d'accentuer encore la concurrence entre chercheurs sans augmenter suffisamment les financements nécessaires à une recherche de qualité dans laquelle la liberté académique serait préservée et donc l'autonomie des chercheurs. Nous en parlerons avec nos 4 invités. Johanna Siméon-Germanos, elle est professeure de sciences politiques à l'école normale supérieure, membre du centre Maurice Alvax et médaille d'argent du CNRS en 2019. Elle est membre également d'un collectif dont vous entendrez parler dans cette émission, Rogue ESR. Juliette Dumont est maître de conférence en histoire contemporaine à Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'Amérique latine, et elle est membre de Condorcet Mobilisé. Elle nous expliquera ce dont il s'agit. Dominique Vernet est avec nous, il est porteur du projet de Paris-Saclay, un grand projet justement de recherche. Comment ?
J'ai quitté cette fonction.
Ah, vous avez quitté cette fonction. Mais enfin, vous allez nous expliquer effectivement ce qu'est ce grand projet de recherche effectivement de Paris-Saclay au sud de Paris. Vous êtes co-rapporteur du groupe de travail Recherche, Partenariat et Innovation pour justement cette loi de programmation de la recherche. Et enfin, Christophe Bertossi est avec nous. Il est chercheur habilité à diriger des recherches. Il est directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. Il nous expliquera comment il est passé d'une recherche qui était une recherche publique à une recherche spécialisée dans le cadre d'un institut comme celui-ci qui s'appelle l'IFRI. Tout de suite, le président de la République, nous sommes en novembre 2019.
Évaluation. Bon, si j'étais politiquement non correct, je vous dirais que vous avez en fait trop d'évaluations qui servent à rien. Et je pense que c'est un peu ça. Je pense que la solution n'est pas le moins d'évaluation. La question, c'est les évaluations que vous avez citées, quelles conséquences aujourd'hui on en tire dans le système ? Très peu. Si on est honnête avec nous collectivement. C'est très lourd. Et donc, au fond, on a créé un système d'évaluation comme ça n'a pas été porté, accepté par l'écosystème français. On a fait d'abord un système dur qui a été rejeté. On a maintenant un système mou, sans conséquence. Et donc, le système mou, sans conséquence, il n'est pas bon pour le bon chercheur. Parce qu'il est aussi bureaucratique que pour le mauvais, mais sans conséquence, parce qu'il est peu différenciant. Vous parliez tout à l'heure d'inégalitaire. En tout cas, il n'est pas différenciant. Et donc, il prend autant de temps à chacun d'être rempli, mais il n'y a pas de conséquences réelles.
Voilà, nous étions le 26 novembre dernier à l'occasion des 80 ans du CNRS et ainsi s'exprimait Emmanuel Macron, président de la République. Je reconnais que si on n'est pas spécialiste de ce milieu, savoir ce qu'est un système dur ou un système mou sans conséquence, c'est assez difficile que de le savoir. Est-ce que, pour votre part, Dominique Vernet, qui donc est co-rapporteur du groupe de travail Recherche, Partenariat et Innovation pour cette loi de programmation de la recherche dont on va parler, vous avez compris ce que voulait dire le président de la République sur cette question de l'évaluation des chercheurs, mou, dur, avec conséquence ou sans conséquence?
Il a parlé à la fois de l'évaluation des chercheurs, mais aussi des entités, des laboratoires, des établissements. En fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que on passe pas mal de temps à faire des évaluations. Le problème, c'est que ça se solde par quoi ? Par des rapports et dont on voit pas forcément les conséquences. Bon, il m'appartient pas de juger des conséquences, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que finalement, les retours ne sont pas... Il n'y a pas un impact direct de ces évaluations vis-à-vis des laboratoires, vis-à-vis des chercheurs. En tout cas, je crois que c'est ce qu'il a voulu dire.
Oui, bah, effectivement, on en est à essayer d'interpréter la parole présidentielle. Johanna Siméon-Germanos, vous qui êtes donc membre d'un collectif qui s'appelle Rogue ESR. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie, Rogue ESR ?
Alors, Rogue ESR fait référence à un mouvement de défense des sciences qu'on avait observé aux États-Unis au moment des offensives de Trump contre des gens à la NASA ou ailleurs. Il y avait eu un collectif qui s'appelait Rogue NASA qui avait été fondé. Et donc, il y a quelque chose qui est un petit peu geek à la fois, qui fait référence un peu à la culture geek en utilisant le terme de Rogue comme dans Star Wars, mais qui entend lutter de façon, disons, assez spontanée aux attaques aux attaques contre le monde de la recherche.
Comment avez-vous entendu ce discours présidentiel qui d'ailleurs, dans une autre partie de ce discours, parlait des bons et des mauvais chercheurs qu'il faudrait mettre plus ou moins en concurrence, en tout cas récompenser les meilleurs et peut-être tenser les plus mauvais. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce discours présidentiel qui a commencé à remettre un peu le feu dans ce milieu de la recherche il y a 2 mois ?
Qui a commencé avec aussi les propos du PDG du CNRS hein, sur l'idée
Antoine qu'il fallait,
Antoine Petit qui promouvait quelque chose de darwinien en matière de recherche en expliquant que l'inégalité c'était bien. Bon, moi il me semble que très souvent quand on dit je vais pas faire du politiquement correct, c'est qu'on vous prépare plutôt du politiquement douteux. Et ce qui est aussi très gênant, c'est que d'une certaine façon, une partie des constats trop d'évaluation, on pourrait tous la partager, simplement on n'en tire pas du tout la conséquence. C'est comme une partie finalement des constats du groupe de travail. Je pense que beaucoup de chercheurs les partagerait, mais certainement pas les préconisations. C'est-à-dire, oui, il y a trop d'évaluations.
Alors, qu'est-ce qu'une évaluation dans le domaine de la recherche ?
Ben, on en a beaucoup et tout le temps. Je pense que mes collègues pourraient en témoigner aussi. Dès qu'on propose un article, on est évalué, lu.
Souvent par ses pairs.
Par ses pairs. Quand on veut participer à un colloque, on est évalué. Quand on veut un avancement de grade, soit en tant que chercheur, soit en tant que professeur ou maître de conférence, on est évalué. Quand on propose un projet européen ou quand on veut avoir les moyens de faire son métier, qu'on demande une ANR, on est évalué.
Et donc, peut-être. ANR, c'est une agence nationale de la recherche. C'est donc une fonction particulière qui permet justement de financer des recherches en groupe ou seul autour d'un projet particulier.
Et donc, on a l'impression, dans ce milieu, de passer sa vie à rituellement fabriquer de l'évaluation et à se dire, mais est-ce que ce temps ne pourrait pas être mieux consacré à chercher, réfléchir, écrire ?
Juliette Dumont, qu'est-ce qui fait qu'en tant que maître de conférence en histoire contemporaine à Sorbonne Nouvelle, vous avez décidé avec un autre groupe, parce qu'ils sont nombreux ces groupes qui protestent, demandent la parole justement dans le cadre de cette loi de programmation de la recherche qui est en cours, de vous mobiliser vous-même, Juliette Dumont ?
Bah, d'abord, je rejoins ce que vient de dire ma collègue, c'est-à-dire que les constats qui sont faits dans les 3 rapports préparatoires pour cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche, c'est des constats que nous partageons tous, c'est-à-dire le constat d'une précarisation extrême des personnels dans l'enseignement et de la recherche, le constat d'une faible attractivité des métiers, c'est un joli une périphrase pour dire que nous sommes plutôt mal payés, surtout en entrée de carrière, le constat aussi d'un décrochage de la science française, de la recherche française dans les classements internationaux. Donc ces constats sont justes. Je rejoins ma collègue, le problème c'est que les préconisations, elles, nous posent beaucoup de questions. Et ce qui pose question également dans ces rapports, c'est que le constat est juste, mais jamais, jamais, on ne se demande comment on en est arrivé là. Donc il n'y a pas d'essayer de comprendre les origines de la situation actuelle. Et les origines de la situation actuelle, c'est 15 années de réforme de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc c'est plein de sigles. Hein. C'est la mise en place de la loi d'autonomie des universités, c'est l'établissement de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, qui a opéré un changement de paradigme. C'est-à-dire que la recherche, elle fonctionne selon 2 types de financement. Les financements pérennes, accordés aux laboratoires, tous les ans, une dotation, et les financements par appel à projet. L'ANR a systématisé les appels à projet et aujourd'hui, les financements sont surtout sur appel à projet.
Donc des financements fléchés sur un projet particulier et non pas pour un laboratoire qui travaillerait en toute liberté, en toute autonomie, sur l'ensemble des champs qui sont de sa compétence et qui permettraient peut-être de trouver quelque chose à un moment donné, peut-être de moins trouver à un autre moment, mais en tout cas de ne pas avoir un développement unique dans le sens d'un projet particulier.
Et c'est ça, c'est-à-dire que le fait de mélanger dotation pérenne et appel à projet, on n'est pas contre. Le problème, c'est quand les appels à projets prennent le pas sur les financements pérennes et le fait que ce sont sur les projets, généralement, les thématiques sont fléchées. Donc, vous parliez d'autonomie, le titre de cette émission, c'est l'autonomie de la recherche. Comment peut-on parler d'autonomie lorsque on a des projets qui sont fléchés en permanence et un financement qui est fléché ?
Alors avant de redonner la parole à Dominique Vernet qui veut la reprendre, je voudrais donner la parole au 4e participant de cette table ronde, de cette discussion, Christophe Bertossi, bonjour. Vous êtes chercheur donc habilité à diriger des recherches et vous êtes directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, qui est un think tank. Vous venez de la recherche publique et puis un jour, pour quelles raisons, d'ailleurs, vous allez peut-être nous le dire en quelques mots, vous avez décidé de vous d'aller vers une recherche qui n'est pas privée à 100%, puisque je crois que vous recevez en partie des financements à l'IFRI, mais néanmoins des financements publics, mais néanmoins qui est majoritairement privé, donc d'avoir quitté le système public de la recherche.
Parce que les premiers pas que j'ai pu faire en tant que chercheur professionnel dans la recherche universitaire se sont faits à l'étranger, et que en Angleterre, et qu'une fois que je suis rentré d'Angleterre pour continuer à développer mon agenda de recherche, j'ai trouvé de grandes difficultés à développer cet agenda dans des universités publiques, parce que au fond, la principale difficulté pour répondre à votre question sur l'autonomie de la recherche, c'est la souffrance et la fragilité de l'université, du système de la recherche publique aujourd'hui. Ça crée des logiques institutionnelles qui ont des conséquences aussi sur le recrutement, mais pas que.
Souffrance, qu'est-ce que vous entendez par souffrance? Parce que c'est un terme qu'on utilise pour beaucoup de métiers dans nos sociétés contemporaines.
Peut-être que c'était plus métaphorique dans mon usage.
Mais c'est une souffrance parce que les rémunérations ne sont pas à la hauteur, en concurrence les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas assez de postes pour le nombre de chercheurs que l'on trouve et qui sont formés, c'est quoi?
C'est des métiers de vocation. C'est des métiers qui appellent à un don de soi qui est incommensurable avec beaucoup d'autres professions. On pourrait les comparer aux métiers pour autrui.
Médecine.
Il y a du don de soi dans le métier de l'enseignement et de la recherche. Vous créez beaucoup de vocations et beaucoup de motivation à de nombreux candidats pour y rentrer, mais les conditions de recrutement n'y sont pas, les conditions de salaire n'y sont pas, les conditions d'évolution de carrière n'y sont pas. Donc, ces logiques institutionnelles ont des résultats, donc c'est pas très intéressant de revenir à mon cas personnel, mais pour finir sur votre question, je crois que ce qui était intéressant dans mon retour d'Angleterre, c'était de découvrir que l'opposition entre recherche publique et espace privé n'était pas nécessairement une différence entre recherche et expertise, et je pense qu'on pourra revenir sur cette dichotomie dans la discussion, mais que dans un contexte anglo-saxon, cette opposition, elle tient pas, on peut faire la recherche aussi ailleurs qu'à l'université. Et cette possibilité-là que j'ai essayé de développer en créant le Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI.
Alors, Christophe Bertossi, Dominique Vernet, pardon, vous êtes donc membre de ces chercheurs et de ces personnes qui, avec des députés, d'ailleurs, ont rendu ces trois rapports qui permettent de préparer la loi de programmation sur la recherche. Vous étiez donc dans le groupe Recherche Partenariale et Innovation. Les gens qui sont à cette table et qui combattent une partie de ces conclusions disent on est plutôt d'accord sur la manière de poser le diagnostic, mais on n'est pas d'accord sur les préconisations. Qu'est-ce que vous préconisiez, par exemple, sur cette question de l'innovation et de la recherche partenariale?
Moi, je voudrais d'abord réagir sur un point. Je pense que tout le monde est d'accord sur le constat suivant, c'est que les moyens qui étaient donnés à la recherche se sont effrités. Et qu'effectivement, ce que vous avez appelé souffrance, effectivement, est constaté dans pas mal de laboratoires.
2,2% du PIB, c'est ça, qui est consacré à la recherche?
Tout à fait, mais il faut voir que c'est à peu près la moyenne européenne. Mais il y a le point, je pense, qui pose problème, c'est qu'on est dans une contradiction. À la fois, les personnes à la recherche publique disent toutes nos recherches sont pilotées par des programmes ANR. Mais en fait, quand on regarde ce que représentent les financements ANR, c'est un faible pourcentage du financement de la recherche. Ça, il faut bien prendre conscience de ça par rapport à tous les autres pays d'Europe.
Donc c'est ces programmes dont on dit qu'ils sont fléchés par l'intermédiaire de l'ANR, qui sont sur projet.
Dans les programmes ANR, il y a des fléchés, mais il y a beaucoup de programmes blancs. Il y a beaucoup de programmes blancs dans lesquels, finalement, ce qui compte, c'est l'excellence de la proposition et pas forcément le sujet. D'ailleurs, pour pas mal de personnes qui s'intéressent à la recherche technologique, c'est quand même l'essentiel des gens qui viennent des entreprises, ils ont considéré qu'effectivement, la recherche technologique avait pratiquement disparu de l'ANR parce qu'il n'y avait plus de programme technologique. Donc, vous voyez, on est en pleine contradiction. Donc, il y a ce phénomène de perception des choses qui sont assez différentes suivant les points de vue où on se passe Et de temps en temps, je me dis, il faut quand même qu'on apprenne tous à regarder les indicateurs mondiaux. Ceci étant, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a besoin, effectivement, de financer davantage la recherche. Et il me semble que c'est bien les préconisations qui ont été faites par le groupe 1. Moi, j'étais dans le groupe 3, innovation, mais le groupe 1 a expliqué clairement qu'il fallait augmenter les moyens et on était tous d'accord là-dessus. Et il me semble que la ministre a déjà annoncé effectivement une augmentation significative des salaires d'embauche.
Et on va l'écouter d'ailleurs, on va l'écouter, je vous donne la parole ensuite, on écoute Frédéric Vidal, donc ministre de la Recherche, c'était dans le journal de 22h la semaine dernière chez Stanislas Vadac sur France Culture, c'était mercredi dernier.
Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, sur laquelle nous travaillons depuis maintenant plus de 11 mois, qui a donné lieu à des consultations au travers d'Internet, à des contributions des différentes associations, sociétés savantes, etc. L'objectif, c'est de redonner de l'attractivité au métier de la recherche. Aujourd'hui, lorsque vous êtes recruté en moyenne à 34-35 ans, dans des carrières de chercheur ou de maître de conférence et que vous devez travailler 42 et bientôt 43 ans. De toutes les façons, votre retraite, c'est 67 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi, spécifiquement pour ce type de personnes, eh bien, des améliorations qui seront apportées parce qu'on revalorise globalement les salaires, qui seront apportées parce qu'il y aura des compensations probablement de manière à ce qu'il n'y ait pas de pertes, mais ça a été rappelé très clairement. Nous avons dans les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche un sous-investissement dans l'indemnitaire qui est un vrai problème et l'objectif c'est bien que nous puissions arriver à un niveau d'indemnitaire qui soit comparable à celui de corps équivalent dans la fonction publique.
Je me souviens d'une lettre ouverte qui avait été envoyée par un chercheur en sociologie, Vincent Goulet, c'était en 2014, à Geneviève Fioraso, qui était ministre de la Recherche à ce moment-là, pour expliquer sa démission et pour la façon dont il quittait son poste de maître de conférence à l'université, justement pour toutes ces raisons que nous évoquons aujourd'hui. Donc ça remonte, comme le disait tout à l'heure Juliette Dumont, Johanna Siméan, ça remonte à longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui.
Au moins 2003, je me souviens d'un sit-in de 2003. Et j'ai quelques souvenirs de la fin des années 90, puisque j'enseigne à l'université depuis 96. Et j'ai l'impression d'avoir vu comme ça toute une succession de signes de précarisation. Je voudrais juste dire que il y a la question de la rémunération, mais elle s'articule à la question des postes. C'est-à-dire qu'on voit que les postes au CNRS, il y en a de moins en moins chaque année.
On est passé à 250, c'est ça?
À 250 cette année, on est passé en dessous de la barre
en 2010.
Tout à fait.
2007, il y en avait 700.
Voilà. Et quand la délégation de Rogue-Weser demande à Antoine Petit, mais si vous aviez l'argent,
le président du CNRS,
est-ce que vous créeriez ces postes? Il nous dit non. Il nous dit non parce qu'effectivement, on est dans une logique qui est de rétracter l'emploi public. Et je ne parle même pas de la crise des universités. Vous regardez l'université d'Evry, je parlais à un collègue d'Evry, c'est 10 titulaires pour 50 précaires. C'est-à-dire qu'une des très grandes menaces aujourd'hui sur l'autonomie de la recherche et sur la qualité de la recherche, c'est la montée du précariat. Et je rejoins vraiment mon collègue Christophe Bertossi. Le problème n'est pas seulement public-privé. L'indépendance d'esprit, elle ne peut pas se construire dans le précariat. Quand on a peur pour son avenir, on n'est pas audacieux, on n'est pas innovant, c'est pas vrai.
Sur ce point, Juliette Dumont, et sur ces annonces faites la semaine dernière par la ministre, c'est-à-dire cette augmentation pour les maîtres de conférences ou chargés de recherche recrutés à hauteur d'au moins 2 SMIC, donc contre pour l'instant 1,3 ou 1,4 SMIC, ça va dans le sens de ce qui est demandé ou ça n'est pas suffisant, justement, Juliette Dumont?
Mais en fait, il faut voir l'ensemble des annonces, c'est-à-dire que la revalorisation des salaires en début de carrière, c'est effectivement 2 SMIC et c'est 26 millions d'euros. Dans le même temps, sont annoncés un budget de 96 millions d'euros pour les primes. Donc, en fait, la logique, ce n'est pas de dire on va faire en sorte que tout le monde gagne mieux, parce qu'effectivement, on a des salaires qui sont de 60% par rapport à nos collègues européens notamment. Donc, le fait de mettre l'accent sur les primes budgétairement, ça montre bien quelle est la logique. C'est la logique de compétition entre individus. Par ailleurs, revalorisation des salaires, c'est bien, mais recrutement, c'est mieux. Ce que disait Johanna Siméan, c'est-à-dire qu'au concours du CNRS, c'est une baisse drastique et le poste de maître de conférence, c'est moins 30% de recrutement en 10 ans. C'est un plan social qui ne dit pas son nom. Donc là aussi, on a un problème, c'est-à-dire qu'on peut toujours revaloriser les salaires à l'entrée. C'est une mesure qui ne va pas coûter très cher puisqu'il y a de moins en moins de titulaires.
Mais il y avait une menace de fusionner maître de conférence et professeur d'université. Cette menace, visiblement, est écartée. La ministre a dit qu'il n'y aurait plus qu'on ne tenterait pas de fusionner les deux types de postes, par exemple.
On ne tenterait pas, mais une des préconisations, une des recommandations des rapports, sur le rapport sur l'emploi, c'est de favoriser, de mettre en place ce qu'on appelle les tenure tracks. C'est-à-dire, ça donne des contrats à durée déterminée de 5 à 6 ans.
Les chaires d'excellence junior aussi.
Alors ça, c'est l'ancien dispositif qui n'a pas très bien marché. Les tenure tracks, on en trouve dans le monde anglo-saxon, principalement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Autriche.
Ce sont des CDD, mais de longue durée.
Des CDD de 6 ans. On va dire c'est mieux que rien, c'est mieux que des contrats d'un an, c'est mieux que des vacations payées 30 euros net de l'heure.
Mais, parce que c'est cela pour l'instant.
C'est ça pour l'instant. Nos vacataires, hein, ils sont payés 30 euros net de l'heure. Pour une heure de cours, il faut compter 4 heures de préparation plus que les corrections de copie. Donc vous avez 10 heures de travail pour une heure de cours, ça fait 3 euros net de l'heure. Les tenure tracks, on va dire encore une fois, c'est mieux que rien. On a des retours de nos collègues états-uniens qui nous disent, en fait c'est horrible. Parce que on a des jeunes chercheurs qui enchaînent les tenure tracks, ça veut dire des contrats de 6 ans, puis 12 ans. Et puis 12 ans, bah, c'est quand même long dans une carrière.
Mais est-ce que ça n'est pas la même chose que les post-docs, comme on dit, on termine une thèse, on s'en va 2 ans en post-doc en Suède, puis ensuite on part 2 ans en Colombie.
Sauf que les post-docs, c'est pas 6 ans.
Oui, c'est, non, 6 ans. C'est court, mais simplement on les enchaîne, les post-docs, avant de trouver un poste en France.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas de poste.
Oui, parce qu'il n'y a pas de poste en France.
Le circuit s'étend.
Le circuit s'étend, mais l'importance maintenant, c'est de remettre de l'emploi pérenne dans l'université, dans la recherche. Et à la fois pour la recherche, pour l'autonomie, pour le temps, et puis pour la transmission de la recherche, c'est-à-dire l'enseignement. Une des préconisations, c'est de dire on va recruter plus d'enseignants du secondaire détachés qui, eux, font 380 heures au lieu des 192. Donc on va avoir des machines à faire cours qui ne font pas de recherche, et le lien entre recherche et enseignement se perd. Ce qui est, moi je suis enseignante-chercheuse et j'y tiens. Mon enseignement nourrit ma recherche nourrit mon enseignement. Et c'est à cette condition-là que l'on a une université aussi de qualité.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat qui se pose aujourd'hui, la question de la recherche et de l'autonomie de cette recherche avec Johanna Siméon Germanos, Juliette Dumont, Dominique Vernet et Christophe Bertossi. Vous nous avez expliqué, effectivement, Christophe Bertossi, comment vous aviez, au retour de vos études en Grande-Bretagne, eu de la difficulté à trouver un poste dans la recherche publique en France et que, donc, vous aviez monté ce centre de migration et citoyenneté de l'IFRI. Qu'est-ce que l'IFRI? C'est un think tank, on appelle ça? C'est un centre de recherche privé? C'est un centre de recherche un peu particulier?
Bon, un peu particulier, je ne sais pas. C'est un espace où des chercheurs produisent de la recherche sous les contraintes qui sont celles de la société française en contexte européen aujourd'hui. Donc, qui sont soumis aux mêmes contraintes de moyens, de financement et d'évolution de postes. C'est une recherche qui est peut-être marquée par le fait qu'elle se réalise dans un espace institutionnel qui a un statut qui n'est pas public, puisque c'est une association loi 1901. Et qui du coup n'est pas soumis exactement aux mêmes procédures d'évaluation des chercheurs et des productions. Mais ce qui me paraît important dans la discussion sur l'autonomie de la recherche, et l'exemple de l'IFRI peut donner un exemple de cela, c'est évidemment que l'autonomie, c'est une condition indispensable pour produire de la recherche.
Et de la bonne recherche.
Oui, mais enfin, la recherche doit être générale, voilà. Si une recherche qui n'est pas autonome, c'est pas de la recherche. La question est est-ce qu'il est possible du coup de réunir les conditions de production d'une recherche autonome et indépendante tout en travaillant en aval dans une discussion en relation avec d'autres types d'acteurs que des acteurs académiques
publics.
C'est peut-être là que l'IFRI se singularise dans le paysage français, parce que c'est pas vraiment la culture académique française ou la culture scientifique française de le faire.
Donc on a toujours la crainte, effectivement, d'avoir des commandes de la part d'institutions privées, en l'occurrence, ou d'entreprises, etc. Et donc d'avoir des demandes qui ne soient pas académiquement les plus honnêtes possibles. C'est comme ça qu'on le voit souvent.
Alors je vais vous donner un exemple très simple. Probablement le travail de terrain qui m'a valu le plus d'attention de la part de mes collègues en France et à l'étranger d'ailleurs, était une recherche que j'ai conduite sur les Français d'origine immigrée, l'immigration postcoloniale aujourd'hui dans les armées françaises.
Les discriminations en particulier.
Et la question, ce projet a été financé par les armées, par une instance au sein du ministère de la Défense. La question de départ était un peu troublante pour des chercheurs qui reçoivent la question, puisqu'il s'agissait de vérifier du niveau d'intégration, donc on est dans les débuts des années 2000, du niveau d'intégration des gens qui ont été recrutés après le passage à la professionnalisation des armées françaises. Alors évidemment, sociologie empirique, aller sur le terrain dans les armées, c'est pas simple, on accepte la commande et on répond à une question qui n'est pas posée, qui est celle des discriminations. Voilà. Du coup, on est arrivé finalement, grâce à ce financement, à faire plusieurs choses, à ouvrir l'espace institutionnel militaire à l'enquête empirique de terrain pendant 2 ans. La deuxième chose, c'est qu'on a pu rassurer par cette commande qu'il n'y avait pas de problème dans le sens où la puissance publique pouvait construire la problématique du sujet, mais on a imposé un nouveau sujet qui était celui de la discrimination, qui a donné lieu, et ça c'était pas...
Qui
n'était pas du tout prévu à l'avance, qui a créé d'ailleurs des moments un petit peu... Ça a tangué, si vous voulez, lorsqu'ils ont reçu le travail final, et aussi l'interprétation que la presse a pu en faire à l'époque. Mais on a réussi, du coup, en produisant plus de connaissances critiques, à aussi ouvrir le champ d'une réforme dans l'espace institutionnel de l'État, d'un programme de lutte contre les discriminations et de création d'une aumônerie des armées du culte musulman.
Dominique Vernet, une des questions qui est posée par cette loi de programmation dont on discute depuis maintenant une vingtaine de minutes sur France Culture dans l'émission Le Temps du Débat, c'est la question de cette concurrence internationale qui semble beaucoup inquiéter nos autorités, présidence de la République, ministère de la Recherche, direction du CNRS, en disant voilà, on a une recherche qui n'est pas au niveau international, qui n'est pas concurrentielle. Or, beaucoup de ceux qui sont qui obtiennent un doctorat dans toutes les matières d'ailleurs vont dans des pays étrangers pour y être employés parce que simplement les conditions sont meilleures, conditions financières, conditions de laboratoire, conditions d'entourage, pourrait-on dire, du chercheur ou de la chercheuse en question, parce qu'il y a des moyens qui sont mis à sa disposition pour qu'il n'ait pas, par exemple, tout un tas de tâches qu'il doit accomplir en France, qui sont des tâches administratives très lourdes en l'occurrence. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce diagnostic, c'est-à-dire à la fois la fuite des cerveaux, des gens qui s'en vont ailleurs, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, parce que les conditions sont meilleures pour cette recherche.
Effectivement, on ne peut que regretter ce phénomène, mais bon, moi je pense qu'il y a à l'inverse, effectivement, un certain d'établissements qui recrutent beaucoup de chercheurs étrangers. Si je prends par exemple le cas du CNRS, il se trouve que j'ai été longtemps au conseil d'administration du CNRS et j'en ai reparlé très récemment avec la direction du CNRS. Il y a une proportion très significative de chercheurs. Je vois que vous êtes d'accord avec ce point-là. Donc ça veut dire que finalement, l'attractivité... Mais c'est vrai que ce sont très souvent des chercheurs qui aiment bien la France, qui trouvent que c'est un environnement qui leur plaît.
C'est-à-dire que l'attractivité peut être dans les deux sens.
Voilà, l'attractivité, c'est pas simplement ce qui nous explique, c'est pas simplement le salaire, c'est effectivement tout un ensemble d'environnement social qu'ils trouvent plaisant.
Beaucoup de gens qui viennent aussi de pays où la situation de la recherche universitaire est pire.
Il y a aussi ça. C'est clair, par exemple, qu'on a, moi je voyais sur plateau Saclay, beaucoup d'Italiens. Tout simplement parce qu'effectivement, en Italie, on regrette qu'on ne recrute pas suffisamment de gens au CNRS, mais en Italie, c'est beaucoup plus, l'écart est beaucoup plus important. Donc, on peut se plaindre, mais effectivement, par rapport au meilleur, mais on n'est pas si mal que ça, sur un certain nombre de sujets. Moi, je pense que il y a aussi un autre phénomène qui est en train d'arriver, qui est effectivement la montée en puissance considérable de la Chine fait qu'effectivement, quand on regarde dans les classements internationaux, c'est vrai que la France tend à perdre en pourcentage.
On est 7e au rang mondial
en publication scientifique. Oui, mais quand on regarde, c'est parce qu'effectivement, vous allez monter une montée en puissance extrêmement importante de la Chine.
Faudra s'y faire, peut-être.
Sensible à... Oui, non, mais tout à fait, mais je vais prendre des exemples. Par exemple, dans le cas de l'intelligence artificielle, il y a eu le rapport Villani qui date d'il y a 2 ans maintenant et qui faisait le constat suivant, c'est qu'en termes scientifiques, c'est maintenant les Chinois qui produisent le plus d'articles dans le domaine intelligence artificielle, les Américains conservant l'avantage sur la partie technologique.
Mais peut-être aussi parce qu'ils y mettent beaucoup de moyens.
Ils y mettent proportionnellement pas plus que la France. Quand on regarde en pourcentage du PIB, c'est pas énorme. Hein.
Oui, Johanna Siméon.
Plusieurs choses, et on touche vraiment, je pense, à ce qui est aussi la question du gouvernement par les indicateurs. Parce que le problème, c'est que quand on se donne des outils de mesure, type classement de Shanghai, ça finit par transformer les
donc
politiques
le classement
publiques,
des universités. En
voilà, qui par exemple va aboutir à des regroupements parfois extrêmement bureaucratiques et qui compliquent la vie des personnels plutôt qu'autre chose, afin d'exister au sein
de très grosses
comme les intercommunalités, avec tout ce qui complique la vie des intercommunalités, mais pour les universités. Et donc, parfois, les indicateurs, quand ils deviennent trop des objectifs, ils décrochent complètement du réel. Sur la question, par ailleurs, du PIB affecté à la recherche, on parlait en millions tout à l'heure, je voudrais parler en milliards, c'est-à-dire qu'une des choses qui rend furieuse également la communauté scientifique, c'est quand même 6 milliards de la niche fiscale crédit impôt recherche, dont même M. Thierry Coulon, le conseiller recherche d'Emmanuel Macron et actuel candidat à l'HCERS, ne se prive pas...
Il faut
pas...
préciser ce que c'est l'HCERS.
Il faut le dire, parce que nous... Il y a l'évaluation de la recherche.
Exactement,
et
pour voilà. Lequel, donc poste pour lequel, la présidence de cette institution, vous êtes 3000 ou 3500, 4000 maintenant, à vous être porté candidat justement pour éviter peut-être que ce soit Thierry Coulon, le conseiller d'Emmanuel Macron, qui prenne ce poste.
Lui ou quelqu'un qui aurait les mêmes conceptions, je pense qu'on essaie de ne pas personnaliser cette affaire, mais quand lui-même vous dit lors d'une réunion, oui, non mais on sait bien que le crédit impôt recherche, c'est pas vraiment la recherche, ça sert à payer les secrétaires des boîtes R&D. Des boîtes de recherche et développement.
Ça m'étonnerait qu'il ait dit.
Il l'a dit face à moi.
Alors,
il l'a dit
face pas, à moi. Parce que moi j'étais dans la recherche d'entreprise. Je peux vous dire que effectivement les salaires des secrétaires n'entraient pas en ligne de compte. Et effectivement, ce chiffre est important. Simplement, il faut rappeler le contexte. Quand est-ce que ça a été lancé? Quand est-ce que il y a eu le triplement? Parce que le taux de financement du crédit impôt recherche a été multiplié par 3 en 2008. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la crise et il y avait un risque très important que pas mal d'entreprises relocalisent leur centre de recherche à l'extérieur. Parce qu'il faut bien le dire, avec les charges sociales, le chercheur français en entreprise coûte beaucoup plus cher qu'en Angleterre ou qu'à Singapour. Moi, j'avais des laboratoires.
J'entends, c'est pas la politique que je partagerais, mais oui. Je peux entendre qu'on veuille faire effectivement une exonération fiscale pour les entreprises, mais qu'on n'appelle pas ça recherche parce que le CIR, il entre dans le calcul du pourcentage du PIB français affecté à la recherche. C'est quand même ça le problème.
Juliette
Dumont. Il est comptabilisé dans innovation et recherche. Et puis, Emmanuel Macron, dans son discours, disait il faut savoir évaluer les bons et les mauvais chercheurs. Mais pour le crédit impôt recherche, personne n'évalue l'impact de ce crédit impôt recherche. C'est-à-dire que les entreprises ne fournissent pas, alors normalement elles sont tenues au-delà d'un plafond qui a été sans cesse abaissé, rabaissé de 100 millions, 200 millions de crédit impôt recherche, de fournir un rapport sur l'utilisation justement de ce crédit impôt recherche. Et ces rapports ne sont pas publics et il n'y a pas d'étude d'impact, parce que nous on nous bassine, excusez-moi, mais sur l'impact toujours de nos recherches, de est-ce qu'on fait bien, pas bien, est-ce que cette formation elle est bien, pas bien, donc on est, nous, tout le temps dans l'évaluation, et le crédit impôt recherche qui coûte donc 6 milliards d'euros par an, lui n'est pas évalué. Ça, c'est un petit problème. Quand même.
Cette question de l'autonomie qui nous rassemble autour de cette table, est-ce que, au bout du compte, vous semblez dire que ce vers quoi on pourrait aller, c'est moins d'autonomie si cette loi de programmation de la recherche était mise en place parce qu'il y aurait trop de financement par projet, etc. Est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite de cette autonomie que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle est pleine et entière? Est-ce qu'elle mériterait d'être encore plus élargie? Juliette Dumont, qu'est-ce que vous pensez justement de l'autonomie d'une recherche comme vous? Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine, vous menez des recherches sur l'Amérique latine, vous êtes autonome?
Alors, je vais vous donner un chiffre. Mon laboratoire, qui est plutôt donc qui est une UMR, une unité mixte de recherche, donc financée par l'université et le CNRS, a un budget de 40 000 euros par an. Je suis co-responsable d'un des trois axes du laboratoire. Nous avons un budget de 12 000 euros par an pour 40 chercheurs.
C'est pas beaucoup.
Et nous travaillons sur l'Amérique latine. Donc, un billet d'avion, c'est au minimum 500 euros pour aller en Amérique latine.
Oui, c'est même un peu plus.
Donc, c'est même, ça baisse parfois. l'autonomie, c'est pas juste que c'est piloté politiquement, mais l'autonomie, c'est du temps. C'est du temps pour mener sa recherche. 12 000 euros par an pour 40 chercheurs, ça veut dire qu'il faut aller chercher ailleurs de l'argent. Pour aller chercher ailleurs de l'argent, il faut du temps. Et le problème, c'est qu'il faut aussi des personnels d'appui à la recherche. On parle des chercheurs, des enseignants chercheurs, on ne parle pas de tout le personnel de soutien à la recherche. Or, là aussi, on a un dégraissement massif de ces personnels. Pour répondre, par exemple, il n'y a pas que l'ANR d'appel à projet. Il y a les ERC, il y a...
Les ERC sont des programmes européens.
Il y a beaucoup,
qui sont d'ailleurs généralement bien mieux financés que les ANR.
L'horizon H2020, enfin, aujourd'hui, le financement, il est en Europe. Mais ce sont des dossiers très lourds à monter. Et pour véritablement espérer gagner un de ces projets, il faut y consacrer au moins 3 mois, à temps plein. Je suis enseignante-chercheuse, donc je fais des cours, j'encadre des mémoires, j'ai des tâches administratives très conséquentes. Je n'ai pas le temps de monter ce type de recherche. Donc comment on peut parler d'autonomie, même dans le système d'appel à projet ?
Sur ce point, Christophe Bertossi, prenons un exemple. Quand vous montez un programme de recherche sur migration et citoyenneté, vous avez la même pratique que celle qui vient d'être présentée par Juliette Dumont. C'est un peu différent à l'IFRI parce que justement, vous avez d'autres types d'acteurs que la recherche publique pour vous financer.
Ce que je disais tout à l'heure du côté caricatural, si vous voulez, de l'opposition entre recherche dans le public, expertise dans le privé, c'est que c'est un peu une évidence qui est partagée par beaucoup de gens, à commencer par les entreprises, qui pourraient être des financeurs ou des soutiens de programmes sur des sujets de société. Et du coup, il y a tout un travail. Et je vous parle vraiment de la perspective de quelqu'un qui fait de la recherche sur un sujet qui est très spécifique, hein, qui est celui des migrations. Donc intéresser des entreprises au sujet des migrations et de leur impact dans l'évolution des sociétés européennes ou nord-américaines, ça va pas de soi. Du coup, il faut construire, il faut tisser du relais. Et donc, non seulement il faut travailler à chercher les sous, mais il faut convaincre en créant le marché lui-même. Voilà. Donc ça prend énormément de temps sur le temps de la réalisation de la recherche, mais c'est des compromis sur lesquels on est aujourd'hui.
Dominique Vernet, le projet de Paris-Saclay est un projet éminemment scientifique, de sciences dites dures en l'occurrence, et technologiques. Est-ce que c'est très différent de ce qui vient d'être annoncé par des gens qui ont pratiqué les sciences humaines? Parce que ça n'est pas toujours la même chose que d'avoir des programmes de recherche dans des laboratoires de sciences dures que dans les laboratoires de sciences humaines. Est-ce que vous percevez la différence? Parce que souvent, on entend de la part des sciences humaines et sociales cette idée qu'elles sont minorées dans ces grands programmes de recherche qui sont développés par les gouvernements successifs et pas simplement par celui-ci.
J'ai du mal, honnêtement, à faire la comparaison. Je suis pas suffisamment versé. Je crois qu'il faut savoir ses limites pour parler de la comparaison. Ce que je peux dire quand même, c'est la chose suivante, c'est que il y a un effort important qui a été fait ces dernières années, et en particulier quelque chose qu'on n'a pas signalé, qui est le plan d'investissement d'avenir. Il y a eu des financements quand même très importants qui ont été mis en place pour financer des outils. Parce que effectivement, si je prends par exemple la recherche en physique, je ne vais pas parler de la recherche physique des hautes particules, mais à chaque fois, ce sont des investissements en termes de matériel. La même chose, la recherche médicale aujourd'hui nécessite des investissements matériels importants. Et ça, il faut bien le reconnaître, dans les dernières années, il y a un investissement important qui a été fait de ce côté-là. Et il y a eu une incitation, et c'est là le sens du projet de Saclay, de faire en sorte que les acteurs des différentes institutions travaillent ensemble de façon à mutualiser. Et ça va dans le bon sens. Par contre, on se heurte, et là, c'est notre type de difficulté, à la multiplicité des tutelles, à la multiplicité des établissements. Et effectivement, moi, comme j'ai porté le projet Paris-Saclay, je peux vous dire qu'on s'attendait à ce qu'on puisse unifier tout ça. Et en fait, avec la multiplicité des différents statuts, on n'y est pas arrivé. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu une déception, mais je pense qu'il faut continuer. Je pense que les choses sont en train d'évoluer. Je termine juste ce point, les nouveaux statuts de l'Université Paris-Saclay, qui sont des statuts expérimentaux, je pense, vont permettre d'aller dans le bon sens, mais on aura sué longtemps pour y arriver.
Un dernier mot, Jonas Siméon.
C'est juste que ce qui s'est passé à Saclay, c'est aussi quand même la façon dont les grandes écoles, je pense à Polytechnique, et vous savez ce qui s'est passé sur le rôle des polytechniciens et de la FEP. Exactement, mais précisément, la première version du projet a montré le mépris d'une partie des grandes écoles à l'égard de l'université. Quand même.
Merci.
Mon mépris est un peu fort.
On l'a déjà dit ici. À certains moments déjà sur ces questions-là. Un dernier mot, ces manifestations, ces interprétations différentes de cette loi en préparation, ça continue, ça va continuer pendant tout le temps de la préparation. Qu'est-ce que vous en dites de votre côté?
Ça monte en puissance dans les laboratoires. Il y a des revues aussi de sciences humaines qui sont en grève.
Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de revues de sciences humaines qui sont en grève, et Genèse, dont vous êtes membre du comité de rédaction, en l'occurrence Johanna Sénéan.
Dans les labos, dans les universités, dans les revues, à l'HCERS.
Merci à tous les quatre, en tous les cas, d'être venus donc pour parler, pour amorcer la discussion, parce que je pense qu'on pourra continuer cette discussion à un autre moment autour de la recherche et de son autonomie. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André à la technique aujourd'hui, Adèle Caglin et à la réalisation Asia Ralid. Demain, nous parlerons des enfants, de la démographie, faire plus d'enfants ou ne plus faire d'enfants, ça sera le thème de Temps du débat.